Donc, ce soir, nous allons parler du bonheur. Bonheur. À la bonne heure. Ah oui, hein? Il y a quelqu'un là. Et on va se poser la question, c'est quoi le bonheur? Il y a du monde qui a tendance à vivre en attendant que je vais être heureux le jour où. Je connaîtrai le bonheur quand je. Et alors, ils pensent que le bonheur, c'est pour demain. Alors, peut-être que ce sera le jour où je vais rencontrer la personne idéale qui va être ma raison de vivre, qui va répondre à tous mes besoins, qui va combler le vide que j'ai en moi. Ce sera le vrai bonheur. Et la preuve, c'est bien dans la Bible, Genèse 2, 18. L'Éternel dit, « N'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, c'est la preuve que c'est ça le bonheur. Alors qu'en fait, c'est sûr que quand Adam était sur la planète, il était tout seul. C'est pas bon qu'il soit seul. Il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un d'autre. Alors, oui, quelqu'un du sexe opposé, la femme, mais il y avait aussi probablement toute la notion de communauté. On est appelé à vivre aussi en communauté, pas seul dans le monde. D'autres vont dire, ah, si seulement mes circonstances changeaient, je serais heureux. Si j'avais tant d'argent, tel emploi, telle carrière ou tel débouché dans mes études, tel résultat scolaire, je serais heureux. Et le message que je veux qu'on communique ce soir, c'est que le bonheur, c'est pour maintenant. Ce n'est pas pour demain. On n'a pas besoin d'attendre. Et il y a une affirmation que j'aimerais qu'on considère très sérieusement en rapport avec le mariage. Et la prochaine affirmation va nous dire que le bonheur, ce n'est pas le mariage. Et c'est une femme qui a fait cette affirmation-là. Son nom, c'est Ruth Heil, d'un ministère qui s'appelle toujours Family Life Mission en Allemagne. Et elle dit ceci. Il ne faudrait pas que nous laissions à l'autre la responsabilité de notre bonheur. Si nous le faisons, nous irons à l'échec, car qui veut être heureux ne doit pas se marier. Mais qui veut rendre heureux peut se marier. Par moi-même, je ne parviendrai jamais à trouver le bonheur. Il n'y a que Dieu qui puisse me rendre pleinement heureuse. Ça met les choses en perspective. Et ça nous invite à réfléchir. Qui veut rendre heureux peut se marier. Ça veut dire que pour me préparer au mariage, je dois devenir une personne heureuse. Et je veux dire qu'une personne heureuse, ça attire les autres. Si vous voulez être une personne attirante, homme ou femme, eh bien, vous avez besoin d'être une personne qui dégage la joie de vivre. Un autre commentaire, c'est de Magimel. Je ne connais pas, mais en tout cas, il a dit ça. Le bonheur se trouve seul et se partage. Il ne parle pas de Dieu dedans, mais nous, on peut le mettre. Le bonheur se trouve seul et se partage. Donc, c'est tout à fait contraire peut-être à certaines de vos définitions que vous auriez pu avoir jusqu'à maintenant sur qu'est-ce qui va faire que vous pourrez dire « Je suis une personne vraiment heureuse maintenant. » Alors, la plupart d'entre vous ici, vous n'êtes pas mariés. Vous êtes célibataire. Et Le défi pour vous, c'est d'être un célibataire heureux. Yvon Dallaire, que j'ai déjà cité, psychologue, a dit ceci. Les célibataires heureux forment la plupart du temps des couples heureux, car au lieu de tomber en amour, comme on dit au Québec, les Européens trouvent ça bien drôle, ils s'élèvent en amour. Attention, pas tomber, pas en amour, mais... À mon avis, l'une des plus belles paroles d'amour que l'on puisse dire, c'est une erreur ici pour moi, à son partenaire est « Chérie, quand je suis avec toi, je suis heureux, et quand je suis seul sans toi, je suis aussi heureux. » Hein, Christiane, tu penses de ça, toi? Signifiant par là que je n'ai pas besoin de toi, mais je t'ai choisi librement et volontairement pour m'accompagner dans mon bonheur, et je suis là pour toi si tu le veux. Dallaire continue en disant « Ceci, je pense, est pour moi le meilleur antidote à la codépendance et le plus bel exemple de maturité émotionnelle et de capacité d'établir une relation d'interdépendance. » Un non-chrétien qui dit ça, je trouve ça intéressant. Dans son livre « Qui sont ces couples heureux? Surmonter les crises et les conflits du couple. » Donc, on a un défi d'être un célibataire heureux. Alors, à quoi reconnaît-on un célibataire malheureux? Alors, petit test pour vous ce soir, pour voir, suis-je un célibataire heureux ou malheureux? Alors, il y a un psychologue, Michel Giroux, qui lui a regroupé sept catégories de célibataires malheureux. J'en nomme six parce que la septième, ça s'applique surtout aux gens qui sont déjà mariés, donc pas des célibataires. Alors ça, on l'applique autant aux hommes qu'aux femmes, même si les images parfois peut-être tantôt masculines, tantôt féminines. Alors, un premier exemple d'un célibataire malheureux, c'est l'ours grognon. C'est pas moi qui le dis, là, c'est ce psychologue-là. L'ours grognon, c'est celui qui s'enferme dans sa caverne au lieu de rencontrer des gens. Un ours grognon. Le deuxième, le paon. Le paon, ça, c'est le coureur de soirée 5 à 7 qui a horreur de la solitude et qui sombre dans les relations superficielles. Je ne sais pas si c'est un de vous ça s'identifie à ça. L'autre, c'est la fourmi affamée ou celle qui travaille sans arrêt, se pète tout ce qu'elle veut, mais dont la vie privée passe en dernier. Travail, 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 achat, travail, pas de vie privée. Quatrième, le caméléon, celui qui veut passer inaperçu parce que trop timide pour entretenir une conversation. On a l'oiseau-mouche, ou le charmant charmeur, qui va de passion en passion, terrifié par un engagement sérieux. Et le sixième et dernier que je mentionne ici, la sangsue. La femme va dire la sangsue ou celui qui est prêt à s'engager avec la première personne qui s'intéresse à lui, mais qui finalement fait fuir tout le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une sangsue qui a voulu s'approcher de vous. Puis... Alors ça, c'est des exemples de célibataires malheureux. L'ours grognon, qui s'enferme dans sa caverne. Le paon, celui qui essaie de charmer tout le monde, mais est superficiel. Fourmi affamée, travail, travail, travail. Caméléon, trop timide, passe inaperçu. L'oiseau-mouche, charmeur, charmant. Et la sangsue, qui s'accroche à la première personne qui va s'intéresser. Alors, je ne vais pas vous demander de me nommer l'animal qui vous ressemble. Peut-être que vous êtes célibataire heureux. Alors, à quoi reconnaît-on un célibataire qui est heureux? Célibataire qui va être heureux, il va considérer que la période dans laquelle il est, c'est un temps privilégié. Ah, il faut que je profite de ces années. C'est super que je ne suis pas encore marié. Je suis content de ne pas être encore marié parce que je peux profiter de continuer de m'épanouir, de développer, de grandir en maturité. Donc, il apprivoise sa solitude. Il apprend à mieux connaître ses besoins. Il profite de son célibat au maximum pour vivre dans la joie, le bonheur maintenant, se développer. Et puis, pour lui, le mariage, ce n'est pas rechercher désespérément et continuellement quelqu'un. T'as pas le mariage, c'est-à-dire, l'idée du mariage, c'est une espérance, mais ce n'est pas une recherche désespérée et continuelle. Si seulement j'avais quelqu'un, puis il n'est pas dans une rencontre comme celle-ci avec comme un périscope de sous-marin. Donc, ce qui le caractérise, c'est qu'il est bien avec lui-même. Il est bien dans sa peau. Il a un sentiment d'être accompli. Il est actif. Proverbe 12, 27 nous dit, « L'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. » Un homme, une femme. Un philosophe a dit, « L'homme s'occupe à chercher son bonheur, mais son plus grand bonheur est d'être occupé. » Alors, être un célibataire, actif, accompli. Il est capable de relations sociales. Il est sociable. Il est capable d'entrer en relation avec les gens. Et il apprécie sa vie de célibataire. Son bonheur ne dépend pas de la présence des autres, mais il sait s'enrichir au contact des autres. Et l'autre n'est pas son autre moitié. Le célibataire ne se considère pas comme une demi-personne. Alors, les recherches démontrent que les couples heureux sont formés par deux êtres autonomes, responsables d'eux-mêmes, là je cite encore Yvon Dallaire, libres et heureux, qu'ils vivent seuls ou en couple. Chaque être humain est une totalité en soi. Dans le couple, notre conjoint n'est alors plus le complément de ce qui nous manque, puisque nous sommes complets, mais un supplément. Petite nuance, intéressante, pour dire qu'en tant que célibataire, tu n'es pas une demi-personne. Puis si tu es un célibataire à 40 ans, tu n'es pas une demi-personne, puis à 50 ans non plus. Les gens disent, oh non, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Non, tu seras toujours une personne à part entière. Et il va ajouter Dallaire, le secret d'un couple harmonieux, c'est deux êtres complets qui vont être ensemble. Donc, Ruth Hael dit, si tu veux être heureux, ne te marie pas, mais si tu veux rendre heureux, tu peux te marier. Alors, ça m'a amené à la question, il faudrait peut-être qu'on aille un peu plus loin par rapport à ça, et définir, alors, mais c'est quoi le bonheur? Comment peut-on définir le bonheur? Et quelle est ta définition à toi du bonheur? Fait que là, je me suis dit que peut-être que pour vous garder réveillé, on va prendre 5 minutes et vous allez discuter 2 à 2 avec la personne assise proche de vous idéalement, là, 2 à 2, et sortir votre définition du bonheur. Et dans 5 minutes, je ne vous donne pas beaucoup de temps, 5 minutes, on va entendre certaines définitions. OK, allez-y. Qu'est-ce que le bonheur? Entendre certaines des trouvailles. Voilà, voilà. Soit dit en passant, je pense à ça. Encore 1 minute, vous savez qu'on perd 1 heure de sommeil cette nuit. Hein? L'heure change cette nuit. Pas oublier ça, hein? Je pensais juste maintenant, ça m'échappait. Alors, quelques définitions du bonheur. Certains aimeraient la partager. Pas obligé que tout le monde partage. Oui, là-bas. Ça ne doit pas fluctuer. stable. Merci. À côté? Contentement. C'est une belle notion, le contentement. Oui. Sa grâce nous suffit. Contentement aussi qui ressort. Oui, deux personnes là. Très, très important. Je vais y revenir. Très important. Oui. Ça y est! Ça y est! La parole de Dieu vient de tout bouleverser. on va dire que ça en fait partie, hein? Ça en fait partie. Oui. OK. État d'esprit, ça se vit. Oui. Une bonne définition, une belle définition. Bon travail. Oui. Il y en a d'autres qui veulent dire quelque chose? Ça se ressemble. OK. OK. Une définition d'une célibataire de 43 ans que j'ai pris en note il y a quelques jours au téléphone. On parlait ensemble, puis elle demandait sa définition du bonheur. Elle dit « la paix, la satisfaction, la joie dans l'état dans lequel on est », ça revient à certaines choses qu'on dit, « le contentement, la reconnaissance envers Dieu, savoir que tu es là où tu es supposé être ». Une sorte de notion intéressante. La notion de Dieu est fondamentale là-dedans. La relation avec Dieu, parce qu'on a été créé pour la relation avec lui. Et la première des pour la relation en général, mais la première des relations, c'est la relation avec Dieu. Et Jésus nous le dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors la notion du bonheur doit forcément être reliée par rapport à ta relation avec Dieu, d'abord et avant tout. Et ça, ce n'est pas juste quelque chose de spirituel comme réponse. Il faut qu'on réalise que c'est beaucoup plus que ça. Et pour illustrer ça, je veux citer quelque chose de Kierkegaard, qui était un philosophe danois, qui avait dit quelque chose dans ce sens-là. Il a dit ceci, il affirmait que l'être humain n'est pas seulement configuré, j'ai souligné le mot configuré parce que c'est un langage informatique qui parle que... Pas qu'on ait des ordinateurs, mais à l'image d'un ordinateur, puis dans son temps, il n'y a peut-être pas d'ordinateur qui regarde, je pense, mais à l'image d'un ordinateur, on est comme programmé dans une direction. On a été fait pour, un chant qui dit ça, j'ai été créé pour te louer, pour t'adorer. On a été configuré pour croire en Dieu de façon générale, non seulement ça, mais pour l'aimer suprêmement, centrer sa vie sur lui, plus que sur toute autre chose, et construire son identité en lui. Donc, si on réfléchit à ça, un jour, Dieu a créé des enfants pour être en relation avec lui. D'abord et avant tout, et en relation avec sa famille, les uns avec les autres. Donc, c'est un essentiel pour définir c'est quoi le bonheur dans ta vie. C'est un incontournable de dire quelle est la qualité de relation que j'ai avec mon Créateur, avec un Dieu que je peux appeler papa, par exemple. De qui je peux recevoir l'amour. Parce que le commandement d'aimer, ce n'est pas un commandement d'un ordre militaire. C'est une invitation à répondre. On est l'épouse de Christ. On dit que la femme est réponse. On est l'épouse de Christ, on est appelé à répondre à l'amour de Dieu. Dieu nous a tant aimés. On a besoin de recevoir cette révélation. Je suis, tu es bien-aimé de Dieu. Dieu t'aime passionnément. Jean 3,16, Dieu a tant aimé. Dieu t'aime à la folie de recevoir cette vérité-là, cette révélation-là, et d'y répondre en disant, Dieu, je t'aime en retour. Donc, cet aspect d'être configuré veut dire que c'est un incontournable. Et un psaume que vous allez voir demain matin dans votre temps avec Dieu, votre temps de réflexion, de méditation, que j'ai choisi pour demain matin, c'est le psaume 73. Asaph est l'auteur. Dans le psaume, Asaph se pose bien des questions sur la justice de Dieu quand il voit les méchants qui réussissent, etc., jusqu'à ce qu'il y ait une révélation finale, du sort final des méchants. Puis il dit finalement, en cours de route, il dit, « Qui d'autre ai-je au ciel en dehors de toi? Je n'ai aucun plaisir sur la terre. » Wow, un instant, là. Exagère pas, Asaph. Un bon repas africain. La bonne communion fraternelle. Une fois marié, la joie de la sexualité dans l'intimité avec ma femme, tout ça, quand même. Mais comment il faut le comprendre? En dehors de toi, tout le reste, ça vaut rien. Mais à partir de toi, bien sûr, je peux m'attendre à vivre de très bonnes choses sur la terre parce que Dieu nous a mis dans un monde avec plein de belles et bonnes choses dont on est appelé à jouir. Il y a un verset qui dit ça dans Timothée. Je pense que Dieu nous donne plein de choses pour qu'on en jouisse. C'est-tu dans Timothée? Je ne sais pas. En tout cas, quelque part. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Là, ça parle de... Puis je pourrais commencer à dire, oui, en vieillissant, je vois que mon corps commence à perdre de l'énergie, etc. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alors, je ne veux pas sonner comme, tu sais, très spirituel. Tu sais, des fois, on peut dire, ah oui, c'est bien beau, là. Mais là, le besoin de quelque chose, ça terre, là. Tu sais, c'est comme le petit gars le soir qui a un orage, qui se réfugie dans le lit de ses parents, il a peur, puis son père, il dit, Dieu est avec toi, mon fils. Puis le fils, il dit à son père, oui, mais là, j'ai besoin de quelqu'un avec de la peau dessus, là. T'sais. Non, je ne veux pas sembler trop spirituel. Puis en même temps, mais c'est une réalité, on a été conçu pour ça, pour l'aimer suprêmement. Et puis quand on réalise qu'on est aimé par Dieu et qu'on répond à ça, il y a quelque chose qui se bâtit dans notre vie, qui s'installe, où on peut dire comme Asaph, en dehors de toi, j'ai aucun plaisir sur la terre, parce que le reste des choses, que ce soit le mariage, que ce soit les possessions matérielles, que ce soit le succès au travail, à un moment donné, on va dire, c'est beau, mais la vie continue, puis il y a les défis, puis il y a les épreuves, tout ça. Qu'est-ce qui va me soutenir? C'est ma relation avec Dieu. S'il n'y a pas cette intériorité avec Dieu, s'il n'y a pas cette présence de Dieu, il y a un vide intérieur, il y a l'absence de Dieu dans la vie de la personne. Pascal disait... Le bonheur n'est ni hors de nous, ni dans nous. Il est en Dieu. Et je marque entre parenthèses Saint-Augustin. Je mets juste entre parenthèses parce qu'Augustin, qui est un saint, comme nous sommes tous des saints ici, on s'entend là, mais nous sommes Saint-Augustin. Il disait, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Ce qui veut dire que si tu vis une frustration dans ta vie, puis tu vis une fixation, frustration et fixation, que pour être heureux, il faut que je sois marié, bien, tu as besoin de trouver une façon de changer ta cassette. Et on ne change pas notre cassette dans le vide. Comprenez ce que je veux dire? Pour changer cette cassette-là, il faut adopter une autre cassette, une autre mentalité, puis dire, mais la plénitude de vie au point de départ, ça va commencer avec une relation avec Dieu. Alors, c'est ça. S'il te faut absolument trouver l'âme sœur en disant « ça va être ça mon bonheur », peut-être que tu pourrais te poser la question très sérieusement, honnêtement, est-ce que je peux vraiment dire que Dieu est mon premier amour? C'est là la question de base. Est-ce que Dieu vraiment est mon premier amour? Quand je loue Dieu, on a encore ce soir des chants, des beaux chants avec des belles paroles, je suis tout à toi. On a chanté ça, je suis tout à toi. Mais on ne réalise peut-être pas toujours la portée profonde de ce que ça signifie. Est-ce que je suis vraiment tout à toi? Alors, moi, j'ai eu le temps de travailler aussi à ma petite définition du bonheur. La voici, ce que j'ai concocté. Le bonheur, c'est de me savoir voulu et désiré par mon Père céleste. Aimé par lui et désireux de l'aimer totalement en retour, ma vie est une réponse. Avide d'entrer toujours plus dans la destinée qu'il a voulu pour moi, parce que Dieu a formé des projets de paix et non de malheur pour toi, pour te donner un avenir de l'espérance. Tu es sur terre avec un appel sur ta vie unique. Comblé de pouvoir, pas pourvoir, pouvoir, petite faute ici, vivre au sein de sa création extraordinaire, parmi sa merveilleuse famille humaine, dont ma femme fait partie, ses enfants, et jusque dans l'éternité, parce que le concept d'éternité, pour moi, est important, on est de passage. On est juste de passage. C'est très court. 70, 80, 90 ans. Puis après, on a l'éternité devant nous. Voilà un peu ma définition du bonheur, où je mets la personne de Dieu en premier. Donc, concrètement, ça peut demander un certain réajustement dans ta recherche du vrai bonheur. Et un de ces réajustements-là, c'est éviter la dépendance. On a parlé de ça dans les questions après-midi. Ça, c'est vraiment un domaine dans lequel on peut facilement être accroché, le domaine de la dépendance. Et une première dépendance, c'est nous sommes des personnes qui avons besoin d'être validées, d'avoir un sens de valeur, d'avoir un sens qu'on peut m'aimer pour qui je suis, etc. Mais on a tendance à penser que c'est la personne de l'autre sexe qui va nous valider. Et je vous lis une citation ici. Je ne pense pas que... Je vais juste vérifier si je l'ai en diapo là, ou pas, quand même. Non, je ne l'ai pas mis. C'est encore de John Eldridge, mais écoutez bien ce qu'il dit par rapport à la validation. Et puis, en particulier, il va faire une remarque sur la pornographie. Une approche intéressante par rapport à ce fléau qui est non seulement dans le monde, mais dans le corps de Christ, dans les vies de couple, et où ça brise des couples. Dans son livre... Le livre que je cite de John Eldridge, c'est écrit avec sa femme, un beau livre qui s'appelle « Cœur de femme, du rêve à la réalité ». Et il dit ceci sur la recherche de validation, c'est-à-dire d'être rassuré sur sa valeur pour l'homme et pour la femme. Dans « Indomptable », son premier livre, « J'ai averti les hommes en leur disant que le plus grand obstacle qui les empêche d'aimer une femme est celui-ci. Trop d'hommes soumettent leur question à Ève. La question, c'est « Est-ce qu'on peut m'aimer pour que je suis? Est-ce que j'ai de la valeur? » Trop d'hommes soumettent leur question à Ève et ça les empêche d'aimer une femme. Ils attendent d'elle qu'elle conforte leur âme. Ce glissement fatal se produit généralement à l'adolescence. Le père a été silencieux ou violent. L'occasion pour lui de se racheter auprès de son fils est passée. La première ouverture qui s'offre dans le cheminement de l'adolescent est sa sexualité. Il prend soudain conscience de l'existence de Ève et pour lui, elle paraît être la vie. Il voit la femme. Voilà la réponse. Elle a toute l'apparence de la réponse à sa question. C'est un mouvement fatal. L'attrait que beaucoup d'hommes éprouvent pour la pornographie vient de là. Ce n'est pas une question de sexe. L'homme cherche une confirmation, une validation. La femme de la revue ou du site pornographique lui offre sa beauté. Elle fait qu'il se sent fort. J'ai trouvé cette approche par rapport au fléau de la pornographie très significatif. Et pour certains hommes qui n'arrivent pas à s'en sortir, ça peut être un élément majeur, un facteur important, où ils vont découvrir, mais c'est quoi la racine qui se cache derrière le fait que je suis accroché après la pornographie, et l'aspect de l'identité, l'aspect d'un sentiment de valeur peut être la réponse. Et il continue de parler par rapport aux femmes. Voici ce qu'il dit par rapport à la femme. Il en va de même pour vous, fille d'Ève. Inutile de poser votre question à Adam. N'attendez pas de lui la validation de votre âme. Est-ce qu'on peut m'aimer, moi, comme femme? Est-ce que je suis attrayante? Est-ce que je peux plaire à quelqu'un, etc.? Est-ce que j'ai de la valeur? N'attendez pas de lui la validation de votre âme. C'est pourtant ce que beaucoup de femmes font. Il cite, « Je me sentirai bien quand j'aurai trouvé un homme. Je me saurai aimer. » Et c'est aussi à l'adolescence que naissent ces pensées. Les occasions pour le père d'intervenir dans sa vie se font de plus en plus rares. La jeune fille s'intéresse au garçon. Si son père n'était pas présent pour elle, elle meurt par manque d'amour et se jette dans les bras des garçons dans l'espoir d'en recevoir le sexe en échange d'amour, en quelque sorte. Citation de John Eldridge dans le livre écrit avec sa femme, « Cœur de femme, du rêve à la réalité ». J'espère que ça parle à certains d'entre vous qui luttez, qui est incertain par rapport à votre valeur comme personne. Alors, la validation, on la cherche ailleurs que dans l'autre. Bien sûr, elle se trouve avec Dieu. Alors, l'autre devient comme une sorte de mirage ou de réponse miracle, notre source du salut. Et on dit que l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Il ne faut surtout pas penser, se fréquenter quelqu'un et se marier pour résoudre vos problèmes personnels. C'est le contraire qui se passe. C'est vos problèmes plus ses problèmes égale explosion de problèmes. On ne résout pas nos problèmes en se mariant, on les multiplie, on en ajoute d'autres. Je ne vais pas dresser une image noire négative, mais de voir la réalité que la vie à deux a ses beaux côtés, mais c'est aussi une rencontre de deux personnes avec toute leur histoire. Et qu'on a tout avantage à régler ces choses-là. On n'est pas parfait quand on se marie, loin de là. Mais régler un certain nombre de choses avant de se marier pour pouvoir rendre l'autre heureux. Pas pour être heureux, comme dit Ruth Hyde. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant que je mentionne autre chose? Besoin de clarification, commentaires? Oui. Une femme trouve le bonheur? Oui. Oui, je pense que quand on parle de complément ou de supplément, je pense que de trouver, pour l'homme de trouver une femme, la femme de trouver un homme, c'est un supplément à son bonheur qu'elle a déjà. Mais ce n'est pas un essentiel. Ce n'est pas un absolu. Ce n'est pas « il faut que ». Non. Il n'y a rien de plus triste qu'une personne célibataire et qui attend à l'âge encore de 50 ans. Puis moi, j'ai vu, par exemple, une femme divorcée, chrétienne, après, dans les cinquantaines, puis absolument orientée vers « il me faut un mari pour être heureuse ». Et pendant ce temps-là, bien, elle ne vit pas de bonheur. Donc, bien sûr, c'est un cadeau de Dieu, mais ce n'est pas un essentiel pour être heureux. Comme ça, je vois. Oui. Non. Non, tout le long de notre vie, on règle des affaires. Hein, Cécile, elle rit, c'est parce qu'elle sait de quoi il s'agit. Hein? Tout le long de notre vie, on règle des choses, on évolue. La rencontre avec l'autre, on prend conscience de certaines choses entre nous deux, puis des fois, ça nous amène à toute une réflexion par rapport à notre passé. C'est impossible de tout régler. Mais de viser une certaine maturité avant de se marier, c'est un atout important. De prendre le temps qu'il faut. Et surtout de régler des choses majeures. Je parlais de la pornographie, par exemple. Il faut régler ça avant de se marier, pas une fois marié. Et ce n'est pas le sexe avec une femme, une fois mariée, qui va régler tes problèmes de tentation dans la sexualité. Oublier, c'est un mythe. Quand tu es marié, tu continues d'être tenté aussi, parce que tu sois homme ou femme, ça existe dans le monde. On vit dans toutes sortes de situations qui peuvent être peuvent nous tenter, mais il y a une différence entre la tentation et le péché. Hein? La différence, c'est tu ne peux pas empêcher un oiseau de te lâcher une crotte sur la tête, mais tu peux l'empêcher d'y faire son nid, par exemple. C'est pas pareil. Donc, pornographie est un exemple. Règle ça avant. D'autres choses, problème d'alcoolisme, problème avec l'alimentation, boulimie, anorexie, des choses à travailler avant. Surtout, je dirais, en résumé, le problème de dépendance évidente. C'est des choses à régler avant. Pardon? Certaines des blessures, certaines autres vont peut-être se guérir au fur et à mesure dans le mariage, mais certaines blessures profondes du passé. Si on pense par exemple à la jeune femme victime d'inceste ou violée qui va entrer dans le mariage incapable d'avoir des rapports intimes avec son mari, c'est un autre exemple de situation qui doit se travailler avant le mariage. Mais on ne peut pas tout régler, c'est impossible. On règle toujours des choses tout le long de notre vie. Ma femme et moi, on a encore des situations où des fois ça accroche. Ça fait 40 ans qu'on est mariés ensemble. Mais on s'est amélioré dans la manière de gérer nos conflits. Ça, c'est bon. Mais on a encore des affaires qu'à un moment donné, il y a des frustrations, des petites incompréhensions, puis il faut qu'on se parle. On ne règle pas tout avant. Oui. Ben, c'est toute l'idée de Romains 12 que vous avez vu ce matin. Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est grandir dans ce non-conformisme, rechercher la pensée de Dieu au travers de sa parole, par l'Esprit Saint, et puis grandir dans le discernement. Donc, c'est un processus de croissance, Ruben. Oui, tout à fait. Oui. Et comme tu dis, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un processus tout le long de notre vie. Dans ma vie, moi, être en amour avec Dieu, c'est quelque chose qui grandit constamment tout le long. Mais il y a différentes étapes, différentes saisons dans notre vie, dans notre communion avec Dieu. L'idée, c'est ça qu'on fixe comme objectif. Je veux faire de toi le sujet de ma joie et puis d'évoluer, de grandir là-dedans. Et de se retrouver dans éventuellement une relation de couple où les deux ont le même objectif. Oui. Vas-y. Je dois manger moins de sucre. Mais moi, j'ai une bouche sucrée. Ça me fatigue pas manger de sucre, moi. Mais si je regarde ma santé, si je veux rester en santé longtemps, il faut que je travaille cette discipline de manger moins de sucre. Okay? Dieu est le sujet de ma joie. Je pratique cette discipline. Je vis ma parole. Je médite ma parole. Je mets en pratique la parole. Je prie. Et j'investis dans les GPU.
Ouais, et le mot discipline, c'est pas un mot qui est pas spirituel, ça fait partie de la réalité. Merci Ruben, on poursuit. Oh, on poursuit. Puis s'il y a des questions à la fin, à toute fin, on peut d'ailleurs rester pendant que d'autres vont manger du sucre en bas. OK. Alors, pratique l'abstinence émotionnelle. On parle beaucoup d'abstinence sexuelle, mais il faudrait qu'on parle d'abstinence émotionnelle aussi, c'est-à-dire pas s'accrocher à une autre personne dans une relation de dépendance. Ne pas s'accrocher à une autre personne dans une relation de dépendance. Tu veux grandir sous le regard de Dieu et pas selon les attentes de l'autre envers toi. Pas grandir à l'ombre de l'autre, mais sous la lumière de Dieu. Pas te développer en fonction de l'autre, mais en fonction de ta relation avec Dieu, qui tu es en Dieu. La Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère, et tu t'attacheras à ta femme, tu deviendras une seule chair, Il y a des gens qui vont quitter papa et maman, mais ils vont remplacer papa et maman par un partenaire, sans avoir grandi dans cette dépendance avec Dieu. Et quitter, ça veut dire ne plus dépendre d'eux. Quand on entre dans la vie adulte, on quitte le père et la mère, c'est-à-dire on reste en relation quand même, mais on ne dépend plus d'eux pour notre vie, mais on dépend de Dieu. Et c'est avec lui qu'on construit notre dépendance. Et de là, on peut s'attacher ensuite à une autre personne. Une personne qui se marie, supposons, à 45 ans, ce n'est pas le moment, à 45 ans, qu'elle quitte son père et sa mère, on s'entend. Elle quitte quand elle entre dans la vie adulte. Tu peux encore rester sous le même toit, là, mais ambitionne pas trop. Pendant un bout de temps, peut-être. Mais je ne sais pas, j'ai vu le film Tanguy, célibataire, 35 ans, il restait à la maison, il amenait ses blondes à la maison, puis les parents en avaient ras-le-bol
fallait qu'il s'en aille. Attendez pas là. Mais donc, de quitter pour dépendre de Dieu. Donc, ne vous hâtez pas dans une fréquentation. Considérez le nombre de gens qui vont se mettre en couple trop rapidement et qui vont se laisser ensuite. Prenez le temps de vous épanouir. Ne soyez pas motivé par la crainte de rester seul et vous marier sans réfléchir. La peur, c'est un très mauvais pédagogue pour les choix. Faites pas les choses par peur de rester seul. Mieux vaut rester seul et se marier plus tard que de se marier à 20 ans puis de se mettre dans une prison pour le reste de vos jours. Ayez une vie sociale riche. Recherchez la compagnie des autres. Ne soyez pas un ours grognon. Essayez de développer la notion de vie communautaire. Avec les GBU, il y a une certaine vie communautaire qui s'exprime dans vos églises locales ou avec vos amis. Parfois, dans l'église, on peut dire, bien, on se sent seul quand même dans une rencontre du dimanche où il y a quelques centaines de personnes. Recherchez des individus avec qui vous pouvez vous retrouver puis créer une atmosphère familiale. À la question « À quel âge commencer à fréquenter sérieusement? » Je dirais à l'âge où on est prêt à se marier. Et si vous dites à quelqu'un « Je t'aime », dites-le uniquement si vous étiez prêt à continuer en disant « Veux-tu m'épouser? » Ne jouez pas avec ce mot-là, « Je t'aime ». Mais considérez l'engagement que ça signifie. Je pense qu'il n'y a pas de place pour ce qu'on appelle le flirt, les fréquentations. On essaye, on se fréquente, ou c'est léger, puis on passe d'une personne à l'autre. Ça, c'est l'oiseau-mouche. Laissez faire l'oiseau-mouche. Donc, l'idée, c'est de devenir un célibataire accompli, pleinement homme, pleinement femme. Dans le camp en 2016, à l'automne 2016, on avait parlé d'identité. C'est un processus. Quelle heure est-ce que je dois finir? 9h moins quart, juste. Quelle heure? Joël, aide-moi, l'horaire, je ne l'ai plus dans la tête. Oui. Dans 5 minutes? Okay. Oh, ben, je vais arranger ça, certainement. On va s'arranger avec ça. C'est un processus pour s'épanouir comme homme, comme femme. Et juste dire, à partir d'une expérience que personnellement j'ai vécue à l'âge de 43 ans, je l'ai peut-être déjà raconté dans le groupe qui était avec moi en 2016, mais marié, mais avec un problème dans ma vie, que j'avais le problème je luttais avec le complexe d'infériorité. Et puis, un jour, lors d'une conférence à Montréal, un orateur parlait de la masculinité, c'était le thème. Il y avait 600 personnes dans l'église, on était assis en avant, Christiane et moi, probablement arrivés en retard parce qu'on était à sa première rangée. On va là juste quand on est à la fin, arrivé trop tard. Hein. Et puis, l'orateur parlait de la relation du père avec le fils, justement, puis on parlait, hein, manqué de passe, manqué de colonne vertébrale, et il disait, le père dit à son fils, « Je suis avec toi, je crois en toi, tu es capable, vas-y. » Et quand il a dit ça, moi, j'ai réalisé que je souffrais de silence. Je souffrais d'absence de validation de mon père. J'avais eu un bon père, mais pas expressif, silencieux. Et je manquais de nourriture intérieure. Et quand Dieu dit « L'homme ne vivra pas et la femme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », je réalisais un vide dans ma vie. Et pour ça que je luttais avec l'infériorité, c'est qu'il y avait cette absence de validation de mon père. Et la réponse à ce que John Eldridge disait par le fait « Ne cherche pas ta validation dans l'autre, dans l'homme ou dans la femme », mais il y a une réponse, c'est qu'on n'est pas dans le vide ici, c'est que Dieu veut parler. Et ce jour-là, quand j'ai entendu ça, je me suis mis à pleurer comme un bébé sur mon banc. Mais je me retenais un peu parce que là, il y a 600 personnes, je ne voulais pas déranger. Ma femme s'est tournée vers moi, « Christiane, t'en rappelles ce jour-là? » Tu m'as demandé, « Ça va, René? » Ma réponse était, « Oui, ça va bien. » J'étais en chirurgie, en thérapie avec Dieu, là, on the spot, en avant, comme ça. Pourquoi est-ce que je pouvais dire que ça allait bien? Il y avait deux choses qui me permettaient de dire que ça allait bien. Une première chose, révélation. D'où vient mon problème? Un vide. Je n'avais jamais pensé que le silence m'avait blessé, que je manquais de paroles. Et l'autre chose qui me faisait dire que ça allait bien, c'est parce que là, j'expérimentais avec mon père d'adoption, le Père Céleste, ses paroles. Lui prenait la place de mon père terrestre qui était décédé. Je pense mon père, je ne sais pas si c'est encore là, 1994, qui est décédé, 44 ans. Non, il est mort l'année d'après. Mais il vivait encore, mais il était malade. Mon père ne pouvait plus me dire ça. Puis des fois, on attend encore que, est-ce que mon père va me dire quelque chose ou ma mère va me dire quelque chose? Ma femme, elle a attendu ça du testament de son père. Qu'il y aurait peut-être quelque chose, finalement, son père qui était un pasteur, un bonhomme, mais qui n'avait pas affirmé Christiane dans sa vie, elle aurait espéré à la lecture du testament que son père dise quelque chose sur elle. Puis c'était pas là, il n'y avait rien. Là, on peut dire, bad news, les mauvaises nouvelles sont mauvaises, t'es faite à l'os, mon ami. Mais non, mon Père Céleste, ce jour-là, me dit, René, moi, je crois en toi. René, moi, je suis avec toi. Et je n'ai pas entendu une voix audible, mais dans mon esprit, mon Père Céleste, Père d'adoption, qui est écrit dans la parole, prenait la relève. Fait qu'il y a une bonne nouvelle. Pas besoin d'aller chercher dans la pornographie, pas besoin d'aller chercher une relation de dépendance, pas besoin d'aller chercher dans le frigidaire. La réponse à tes besoins profonds, à ton vide affectif. Le Père Céleste est capable de parler dans ta vie par son esprit, à ton esprit. Comme ça dit dans Romains 8, l'esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant, je suis héritier. Héritier du Père et héritier, co-héritier de Christ. C'est des vérités qui transforment. Le monde a été créé par la parole. Tout ce qu'on voit, Dieu dit et cela fut. Et la parole de Dieu qui est écrite, elle est inspirée du Saint-Esprit et Dieu veut la prendre et te parler à toi dans ton cœur, dans ton esprit. Alors l'idée, c'est de pouvoir rencontrer celui qui va te valider et te laisser reconstruire par la parole de Dieu et ne pas aller boire ailleurs. C'est ça l'idée. Ne va pas boire ailleurs. Là, ça va être dans l'alcool. D'autres, ça va être dans la cigarette. D'autres, ça va être dans la drogue. D'autres, ça va être dans l'activisme. Va pas boire ailleurs. Dieu veut te remplir. Donc, le bonheur est à notre portée. C'est maintenant. On n'a pas besoin d'attendre. J'arrive à la fin ici de ce soir. Pas besoin d'attendre. Le bonheur, c'est pour maintenant. On n'est pas en dépendance de choses matérielles. On n'est pas en dépendance même au niveau de notre santé physique, je pourrais dire, même si ça, c'est encore plus difficile à gérer des fois, quand on a des gros problèmes physiques. On n'a pas à attendre qu'un jour on va se marier ou un jour je serai heureux. Non, c'est disponible maintenant parce que Dieu est là maintenant. Et que c'est en vivant cette communion intime avec lui, d'abord avant tout, qu'on pourra de là s'épanouir dans le reste. Si on trouve une femme, si on trouve un mari, si on a des enfants, si on n'a pas d'enfants, peu importe, si on reste célibataire, le bonheur est disponible maintenant. Alors, quelques petites questions d'application à vous laisser ce soir. Avant ce soir, puis maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de changer dans ta conception du bonheur? Quels sont les défis que tu as dans tes relations avec ceux de l'autre sexe? Entre autres, la dimension de dépendance que je viens de mentionner. La validation. Avec ce qu'on a dit par rapport à Dieu, puis là, j'essaie de vraiment déspiritualiser la chose pour vraiment dire que ça, on est configuré, là, ça fait partie de la réalité de la création, configuré pour l'aimer suprêmement, qu'est-ce que ça t'invite à faire comme démarche? Adopter comme vue. Alors, Ruben a partagé l'importance de la parole de Dieu. Puis il y a peut-être d'autres aspects dans ta démarche avec Dieu que tu as envie de vivre, d'expérimenter avec lui. À toi de voir. Puis finalement, Est-ce que dans ta vie, il y a des dépendances? Tu aurais dit, je suis dépendant, que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau des relations humaines, que ce soit au niveau d'attachement autre, que Dieu veut que tu quittes, mais pas quitter dans le vide, quitter pour remplacer par une dépendance renouvelée avec ton Dieu. Voilà des questions en plus de ce que je vous ai laissé pour demain matin. Vous allez voir ça tout à l'heure. On a eu assez. On va l'enlever celle-là. On va juste prier et puis demander que le Saint-Esprit continue de faire son œuvre dans nos vies. Ça a été une bonne journée, bien remplie. Hein? Et puis, on a entendu beaucoup de choses, mais on veut que le Seigneur puisse continuer de nous faire grandir comme homme, comme femme, en maturité, en tenant compte de nos cultures, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, que Dieu fasse le ménage là-dedans, et puis découvrir pleinement notre masculinité, notre féminité, et puis grandir en maturité. On va prier un petit moment, puis après ça, je laisse la suite à... Je clore, puis après, tu prends la relève, OK. Eh bien, Seigneur, merci pour le fait que ton cœur, ton désir, c'est qu'on ait la joie de vivre chacun d'entre nous. Tu nous as créés pour qu'on puisse être heureux, s'épanouir. Tu ne nous as pas créés, Seigneur, pour qu'on vive dans la tristesse ou dans l'ascétisme, Seigneur, ou dans la frustration. Tu nous as créés pour qu'on puisse avoir de la joie avec toi parce que tu es un Dieu de joie. Alors, merci de continuer de te révéler à nous et puis de nous faire grandir comme homme, comme femme. Et là où il y a des chaînes, là où il y a des liens, prier par la foi que tu viennes les couper, que tu viennes les casser, puis qu'on puisse être libre en esprit, en vérité, avec toi, dans notre communion avec toi, et être des gens épanouis. Et qu'on pourra, de là, rendre d'autres personnes heureuses. Être heureux d'abord avec toi pour rendre les autres heureux. Alors, merci pour ta vérité qui nous rend libres et parce que tu es un Père vivant par ton esprit d'adoption dans nos vies, en Christ. Amen.